Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La mort d'un journaliste à la une de Ouest-France.
Et pour ce journaliste, on peut lire une prière en latin à la une du premier journal du pays. In manus tuas domine, commendo spiritum meum, entre tes mains Seigneur, je remets mon esprit. Ce furent, selon Saint-Luc, les dernières paroles du Christ sur la croix, et ce sont les derniers mots que François Régis Hutin nous adresse à nous, ses lecteurs, dans un éditorial posthume, sous sa photo qui occupe la une de son journal en deuil. François Régis Hutin, mort à 88 ans, qui avait été le grand patron du grand quotidien de l'Ouest, un journal qu'il faisait distribuer gratuitement dans les prisons pour aider les taulards à se réinsérer. On lui rend hommage aujourd'hui dans la presse, on raconte ses engagements humanistes, mais avant cet engagement, il y avait chez cet homme une manière d'être aux hommes parce qu'il était au Christ. Un démocrate chrétien, dit le président Macron qui le dit laïquement, mais justement, dans un pays laïque et qui en fait sa fierté, la foi d'un journaliste semble naturelle presque autant qu'une messe en l'honneur d'un rocker en l'église de la Madeleine. Un journal ne tombe pas de la lune, disait Hutin, il était le fruit de valeurs. Il disait aussi, ce journaliste, que Ouest-France pouvait rester ouvert sur la table de la cuisine et qu'il devait expliquer aussi bien le monde que la commune, que le village. On se dit parfois, Nicolas, qu'on pourrait raconter l'actualité simplement en feuilletant Ouest-France. Tiens, par exemple, aujourd'hui, on y trouve un article sur les incendies qui ravagent la Californie, la faute au bétonnage qui assèche cet État américain. C'est de circonstance quand on évoque la planète. Mais en réalité, Nicolas, on pourrait chaque jour raconter tout notre monde dans un de ces journaux qu'on dit à tort local. Pas si loin de la Bretagne, le courrier Picard met à l'honneur ses étoiles. Ce sont les Picards qui ont marqué l'année, choisis par les lecteurs. Et on trouve ici notre France en miniature, ce qui la travaille ou ce qui la sauve. Un homme a sauvé une fillette dans une fusillade. Un footballeur a marqué un but décisif pour la montée. Une femme a abrité une jeune SDF et lui a redonné l'envie de vivre et de se battre. Un industriel a repris Whirlpool. Autant de héros dans un journal de France.
Et on cherche, Claude, de l'espoir pour la planète dans nos journaux.
Et on cherche encore des héros à l'occasion de ce sommet One Planet de Paris, dont vous parliez avec Bruno Le Maire. La presse nous désigne donc des héros du climat, les entreprises qui montent en première ligne, dit le Figaro. La finance qui se met au vert, dit la Croix. Voilà nos héros, parfois ils se proclament eux-mêmes. Ainsi, Saint-Gobain s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 20% en 2025. C'est ce que proclame, interviewé dans l'Opinion, son patron Pierre-André de Chalandard, qui raconte une culture du recyclage et de la productivité. Mais voilà, le PDG de Saint-Gobain conclut d'une boutade étrange: ce qui est bon pour Saint-Gobain est bon pour la France. Et ce mot d'esprit, originellement inventé pour les États-Unis et General Motors, nous induit un malaise. Est-ce qu'on est en train de me parler de la planète ou du bonheur des entreprises? Tiens, dans nos journaux, partout, vous verrez la même pleine page de publicité en faveur de EDF qui, on nous l'a dit, lance son plan solaire. L'écologie, une bonne affaire, comme dit l'éditorial du Figaro. Heureusement, la presse n'est pas faite que de publicité, quand bien même elle en vit, et nos journaux interrogent les bonnes nouvelles. Les Échos, par exemple, doutent de la capacité financière de EDF précisément à assumer sa conversion au solaire. L'Humanité et Libération questionnent les artifices de la finance verte. Libération encore doute du président Macron, en vélo à la une du journal, mais dont la conversion écologiste serait de mots plus que d'actes. Enfin, Le Monde, et c'est à lire, brosse un portrait atterrant de notre parc éolien. Nous en avons honte. Je cite, près de 4000 éoliennes offshore sont installées au large des côtes d'Europe dans 10 pays, dit Le Monde qui interroge. Combien d'entre elles le sont en France, première façade maritime du vieux continent? Réponse, zéro. Aucune. Et le journal Le Monde raconte les blocages administratifs et techniques qui nous empêchent de profiter d'un atout essentiel. Pendant ce temps-là, dans l'Est républicain, on raconte l'installation à Chamolles, dans le Jura, au cœur du pays des Comtés, d'éoliennes géantes de 193 mètres de hauteur, et 169 villageois pensent détenir les clés de notre avenir, alors qu'en haut, tout là-haut, là où se décide, ça traîne.
Un homme inquiétant, pour finir, Claude, dans nos journaux.
Qui est raconté dans les mêmes mots et avec la même réprobation par Libération et le Figaro, ce n'est pas anodin. Il s'appelle Roy Moore, ancien juge et intégriste religieux, mais son Christ n'est pas celui de François Régis Hutin. Celui-là, Roy Moore, avait érigé une représentation kitsch, nous dit Libération, des tables de la loi, les tables de Moïse, pour y soumettre la Cour suprême de l'Alabama. Pour lui, rappelle le Figaro, l'homosexualité est un crime contre la nature, le mal intrinsèque, un acte si abominable qu'il en défie toute description. Monsieur Moore, par ailleurs accusé d'agression sexuelle, est le candidat Donald Trump dans une élection sénatoriale dans cet état sudiste. Il est, cet homme, la preuve du trumpiste et il faut se forcer ensuite à penser que l'on pourra sauver la planète ou l'humanité. Pour se consoler, vous lirez dans Le Monde le portrait d'un individu, d'un être humain, un portrait très fin d'une femme nerveuse qui s'appelle Philippa York. Elle triture son collier comme on triturait une boule anti-stress, écrit Le Monde. Elle était connue chez nous, Madame York, sous le nom de Robert Millar, champion cycliste écossais, vainqueur du trophée de la montagne du Tour de France, qui avait disparu après sa carrière et qu'on a donc retrouvé, rendu à sa nature, je cite. Dès mes 5 ans, j'ai réalisé que j'étais différente des autres. À l'école, j'étais dans la cour avec les garçons et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas être de l'autre côté du mur avec les filles. Et le petit dur écossais, pour fuir ce qui les hantait, était devenu le plus dur, le plus obsessionnel, le plus antipathique des coureurs cyclistes, avant de devenir, aujourd'hui, une femme heureuse. Sans son changement de sexe, dit un de ses amis, elle serait morte en vieil homme seul. On pense que l'on parle d'une transsexuelle, c'est juste une histoire de liberté et d'humanité.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse. Léa Salamé, ensemble dans quelques instants pour le retour de notre invité Bruno Le Maire. Énormément de questions au 01 45 24 7000.